tout de suite, le NRV commence en régie. Ils sont nombreux ce soir pour le premier live de la semaine. Les Innocents avec Marion Coupable.
Ben oui, moi je suis complètement coupable.
Ah ben
coupable
ça je peux vous l'assurer.
Coupable de les aimer depuis des années, les Innocents. Je suis avec Jean-Christ, je suis avec JP. On va écouter un tout petit peu des balances de tout à l'heure.
Ouais.
Moi j'ai la grosse caisse qui fait qui explose un peu.
La grosse caisse est peut-être un peu trop dans le sub.
Ouais, tu
peux peut-être. Elle fait un peu vibrer les casques.
Ouais.
Mais bon, si tu coupes.
C'est quoi le sub?
Le sub, je sais pas, c'est un mot qu'on m'a dit de dire quand ça allait pas bien dans mon casque.
Quand on a commencé, ça existait pas le sub. C'est un truc qui est un phénomène assez récent. Moi j'associe ça à des genres d'acouphènes pour les jeunes, quoi.
D'accord, un acouphène pour les jeunes. Bon, on va vérifier ça tout de suite, Laurent.
Je ne sais même pas de quoi vous voulez parler.
Bah, le sub, voilà, on va faire une thèse sur le sub.
On vous attend en studio, générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au NRV, toujours coup double pour votre magazine de la bonne soirée. 18h, c'est en avant-première sur franceinter.fr et en podcast, ou 22h minuit à l'antenne, une version plus classique, plus Christophe Bourseiller, comme tout le monde.
Plus ensoleillé, comme aujourd'hui.
Exactement, ce soir, session live et playlist avec les Innocents qui signent leur 6e album. Le titre, c'est 6,5. Faut-il y voir une référence au 8,5 de Fellini? À voir, à écouter en live dans quelques instants. À leur côté, lui aussi la guitare le démange, Charles Berberian est notre invité double casquette. D'ailleurs, il est en train de dessiner. On reçoit le dessinateur Prix d'Angoulême 2008 qui signe aujourd'hui sa playlist de luxe en dessin. On y croise Barbara, Bob Dylan, Pierre Barou, Yoko Ono et même son grand-père. Et on reçoit aussi le musicien chanteur pour un album 11 chansons, titre Tout pour le mieux. C'est ce qu'on vous souhaite. Charles Berberian, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le NRV de la suite ce soir, on fête un anniversaire, celui de 1969. Année érotique, ça on le sait, mais aussi année contre-culturelle, peut-être plus décisive que 68, Christophe Bourseiller.
Oui, c'était une année héroïque, en fin de compte, si vous voulez, 1969. 69, c'est mieux que 68, point d'interrogation. Alors il y aura, pour en parler, des spécialistes de 69, ça existe. Mishka Assayas, qu'on connaît tous évidemment, Very Good Trip sur France Inter tous les soirs. Il a aussi sorti un livre d'à peu près 1000 pages, avec de très belles images, qui s'appelle Woodstock, Three Days of Peace and Music. À mon avis, c'est sur Woodstock. Il y aura également Julien Bitoun. Lui, il a publié encore un énorme livre qui s'appelle Woodstock Live. Et il est guitariste. Et il joue bien en plus. Je trouve qu'il a beaucoup de talent. Il y aura Sam Bernett. Alors, Sam Bernett est une figure du mouvement hippie. Il a créé le rock'n'roll circus. Il a tout vécu. Il a connu les Beatles et Rolling Stones et j'en passe. Et même Johnny Hallyday, il paraît, mais lui, je le connais moins. Et puis, il y aura Florence Tamagne. Florence Tamagne, qui est historienne tout à la fois du mouvement LGBT et du rock'n'roll.
Tout ça pour la deuxième heure. Mais en première heure, j'allais oublier Marion Guilbeault. C'est moi qui suis coupable, Marion.
L'algorithme, de quoi, Laurent ?
Pas d'algorithme ce soir, pas de nouveautés nouvelles.
Pas du tout.
Mais le live avec les Innocents, quelques mots ?
Ah bah oui, quelques mots, on va les présenter quand même, si jamais il y avait des gens qui vivaient dans une grotte les 30 dernières années. Les Innocents, bah c'est comme une histoire de couple, c'est une love story entre deux songwriters tout à fait complémentaires avec des hauts. Comme ces chansons qui restent, 4 victoires de la musique et puis des bas, 15 ans de séparation. Ils sont revenus sur la pointe des pieds avec une tournée et puis des disques. Le dernier, vous l'avez dit, vient de sortir. Un carnet de bord harmonique, lumineux de deux quinquas qui croient en la vertu de la chanson artisanale, parfaite, consolatrice. Alors, comment garder son innocence en 2019, dans un 2019 très auto-tuné? Quel est le secret d'un couple qui dure, Laurent? Quelles pistes ont-ils suivies pour leur nouvel album? Réponse dans quelques minutes après
quelques
un
instants.
Premier titre live.
France Inter. Le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Pendant que Charles Berberian est en train de me dessiner, j'ai l'impression que j'ai toujours peur parce que la dernière fois qu'on m'a dessiné, je ressemblais à Charles Aznavour mort.
Ah bon ?
Oui, c'était oui, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment, je me suis vu comme ça. Ça m'a fait beaucoup
voir.
Peur.
Mais
vous
ça
avez vu Charles Aznavour mort ?
Non, mais je me suis vu et j'ai vu qu'il pouvait. À quoi ça pouvait ressembler?
Bon, moi je pense que les Innocents, ils sont prêts, ils sont accordés, ils sont derrière moi. C'est à vous, messieurs.
Tu aimerais te perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours. Ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes. Tailler la plaine en apache, gestes, tu voudrais t'en défaire, mais ça ne marche pas. Non, non, mais parle dans tes silences, comme le secret de ton enfance et toutes ces choses-là qui ne te quittent pas. Ooh, tu aimerais tailler la peine en ma page et t'aimerais te perdre au pas de la foule. Tu aimerais t'ébattre au milieu des fleurs. Tu aimerais, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la
Mais qu'est-ce qu'on est content. Apache, c'est un premier titre live des Inno. Ce soir, dans le nouveau rendez-vous, il y avait Raphaël qui a assuré la batterie et Vincent qui a assuré la basse. Superbe basse et superbe cœur. Bravo Vincent. Le temps pour Jean-Cri et pour JP de nous rejoindre à table. Je donne quelques dates de concert. Lignières, 31 mai. Tourcoing, 13 juin. Non, c'est le Café de la Danse, 19 juin. Et les Nuits de Fourvière, 28 juillet. La salle Pleyel à Paris, le 13 décembre.
Alors, bien sûr, je ne vais pas vous présenter Charles Berberian. Vous vous connaissez depuis des années. Vous êtes même dans son dernier livre, Playlist de luxe. Il y a à la fois des concerts avec vous, JP Natas. Et puis, il y a aussi une séance d'enregistrement du dernier album.
Oui.
Enfin, de l'avant-dernier, de Mandarine.
Ouais. Oui, il dessine tout le temps.
Là, il est en train de dessiner, justement. Vous dessinez quoi, là, en ce moment, Charles Berberian ?
Ce que j'ai sous les yeux, vous, les Innocents.
Marion.
Voilà. Marion Christophe Bourseiller qui a disparu.
Oui, il revient tout à l'heure, Christophe Bourseiller. Okay. Vous êtes rencontrés à quelle occasion ?
On s'est rencontrés. C'est assez étonnant parce qu'en fait, Vincent, qui joue avec nous aujourd'hui, tout ça est parti de Nancy.
Oui.
C'est parti de Nancy, d'un ami commun qui s'appelle Jérôme Didelot, qui est journaliste et surtout musicien à 16 heures, on va dire, parce qu'il est pas professionnel, mais il fait de la très belle ouvrage. En fait, quelqu'un qui fait des disques amateurs comme beaucoup de professionnels aimeraient savoir en faire. Un collectif qui s'appelle Orwell, qui dure depuis un certain nombre d'années, qui a fait la première partie des Innocents sur une tournée en 96. Et donc, moi, je connaissais Charles en tant que on va dire, que comme quelqu'un qui achète des livres de BD de temps en temps. Et il faisait la pochette d'un Orwell, et on s'est vu dans un café dans le 15e.
Oui.
Je me rappelle très bien de ce moment, parce que j'étais un peu impressionné. Je me disais, c'est quand même Charles Berberian.
Et moi donc.
Donc on s'est impressionné. D'abord, on s'est impressionné. Après, maintenant, bon.
Ensuite, vous vous êtes vu dans Playlist de luxe, à quoi vous ressemblez?
Oui, mais moi, en fait, on a énormément d'occasions de voir sa trombine entre les mains de Charles, parce qu'on fait des siestes musicales ensemble.
Des siestes, on fait des de projets allemands.
On part quelquefois dans un très bel endroit en face du Mont Ventoux qui s'appelle Brandt, où Charles dessine, ce qui se passe. En fait,
encore.
C'est un chroniqueur.
Tu documentes exactement tout ce qui se passe depuis quelques années.
Voilà. Et moi qui ne suis pas très fan de mon image sur les photos et tout ça, en fait, j'aime bien comme Charles me dessine. J'ai l'impression que c'est le vrai moi.
Charles Berberian.
Oui, c'est tout ce qu'il a dit est vrai. J'ai eu la chance, ils m'ont invité pendant les séances d'enregistrement de Mandarine, donc le précédent album. J'ai eu la chance d'assister à ces enregistrements-là, notamment au studio Garage, qui est en haut de Ménilmontant. C'est fabuleux, quoi. Enfin, déjà, on s'en rend compte en les écoutant là, les harmonies vocales, mais les entendre travailler ces harmonies, de voir comment ils les construisent, c'est passionnant, quoi. Parce que c'est vraiment à la note près. Et ils ont un camarade de jeu qui s'appelle Dominique Ledudal, qui est très attentif, très exigeant, et ils ont un rapport très très direct, c'est-à-dire que ils prennent pas de gants pour dire quand ça va pas.
Ouais.
Ah, oui, d'accord.
J'adore ce genre de moment où il y a énormément de concentration. Moi, je suis là dans mon coin, je les dessine. C'est l'un des dessins qu'on voit dans la playlist.
Vous avez jamais joué ensemble parce que Charles Berberian est aussi musicien,
si,
compositeur.
Un petit peu,
on a eu
cet honneur-là. Oui.
À Brandt, plus que des bœufs, on a même joué sur ces belles chansons.
J'ai joué une bonne demi-douzaine de ces chansons.
Ah oui, carrément.
Bah oui.
Bah, il y a un bœuf qui peut se préparer.
Le truc, par contre, qui est un peu dur à vivre, c'est l'idée que quelqu'un qui est vraiment déjà une espèce de sommité du monde de la BD soit un musicien largement aussi bon que nous.
Une sommité dans le monde de la BD, on peut pas vous le retirer, Jean-Louis Aberrayant.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que
demi-sommité,
et demi.
Ouais, c'est ça.
Non, mais sinon, si j'avais ou j'écris, je pense un deuxième. Comme deuxième occupation comme ça dans laquelle on excelle à ce point-là, c'est gênant, c'est presque gênant quoi. Son talent de chanteur.
Ouais, chante pas trop.
Ouais. Ouais, c'est un peu, voilà. Non, parce qu'après on se dit, si il se met à faire la cuisine, ça va être terrible, enfin voilà. Mais te lance pas en politique quoi.
Alors, moi j'ai acheté le songbook de Mandarine, donc l'album précédent, pour essayer d'apprendre à jouer Sherpa. Voilà, je me suis dit, celle-là, elle a l'air faisable. J'y suis pas arrivé. Et les rares fois où je demande à Jean Cri ou à JP de me montrer comment on joue un morceau, ils sont là. Mais c'est facile, regarde, tu fais ça, tu fais ci. Et puis moi, je suis là. Non, j'y arrive pas.
Alors, c'est vrai qu'on se posait la question dans une émission cette semaine. Le gars nous disait, mais pourquoi il n'y a pas. Voilà, parce qu'il disait, ouais, vous êtes quand même. Vous avez écrit des classiques et tout.
Ah ouais.
Et ouais, mais on a écrit des classiques que personne ne reprend jamais.
C'est vrai.
Et donc je pense que voilà la réponse.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, personne ne nous reprend jamais.
Vous regrettez ?
Bah oui, quand même.
Voilà. C'est vrai que les chansons des Innocents, on les connaît tous. Il y a un paquet de tubes, c'est incroyable. Et c'est vrai que tu as raison. On entend très très peu des. Moi, je pense que c'est. Moi, je suis pas loin de rejoindre Charles Berberian.
Non, d'ailleurs, tout à l'heure, vous allez vous reprendre vous-même.
Exactement. Voilà. Si des jeunes qui vendent des millions de disques et qui ont des milliards de vues sur YouTube pouvaient reprendre une chanson des Innos, on dirait pas non.
On va simplifier tout ça.
Non mais deux accords joués par un manchot, ça suffira. Juste une question par rapport à Playlist de Luxe, parce qu'on connaissait Playlist, hein, c'était l'album dessiné que vous aviez fait en 2004. Est-ce que c'est cet album-là qui vous a fait connaître dans le monde de la musique, Charles Berberian, qui vous a fait repérer?
Oui, je crois, oui. Parce que j'ai été appelé par un festival de musique en Haute-Savoie, à Cluse, Musique en Stock, qui m'a invité à venir à ce festival et où j'ai participé à une radio locale qui s'appelle Radio Lucien, qui a été créée d'après la bande dessinée de Franck Margerin, qui animait cette radio 4 jours par an. Et je l'ai accompagné.
4 jours par an.
Ouais, 4 jours par an.
Ça fait peur. Hein.
Et on a eu la chance d'en rencontrer plein d'artistes. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer par la suite Rodolphe Burger et puis Pascal Comelade, etc.
Des gens pour qui vous avez fait d'ailleurs des pochettes de disques,
oui,
des pochettes d'albums.
Ouais. Oui. Et Bastien, je crois, l'Allemand qui nous réunit désormais assez souvent sous la bannière des siestes acoustiques, je crois m'a repéré entre autres grâce aussi à ses chroniques dessinées. Ouais.
On va tout à l'heure vous réécouter en live, mais pour l'instant on vous garde tous les trois, on vous a demandé des sons pour faire plus amplement connaissance, et ça commence par un bruit d'arme pour vous, Charles Berberian. Et ça n'a rien d'un jeu vidéo, hein.
C'est
des bruits de roquettes.
Ouais.
Pourquoi ce son?
Pourquoi vous m'imposez ça?
On vous demande des sons,
très gentil.
Vous auriez pu choisir.
Non, mais j'ai dit que j'avais peur de ces sons-là, que je les aimais pas, donc vous n'étiez pas obligé de me les jouer. ça a bercé une petite partie de mon adolescence, puisque j'ai eu la chance d'assister au début de la guerre civile au Liban. Ouais. Merci de me l'avoir rappelé, c'est gentil.
Un son domestique pour vous, Jean-Christophe Urbain, c'est celui-là qui me fait vraiment peur.
La machine
à laver. On n'a pas eu la même enfance. Hein.
C'est quel programme?
La machine à laver.
Oui. J'aime bien quand elle tourne.
C'est vrai? Ah, ça vous repose?
Ça me rassure. Ouais. C'est un bruit qui me rassure.
Moi, j'ai une petite anecdote d'ailleurs. C'est
Chip et Nataf.
Pendant les 15 ans où on était séparés, on est quand même très vite re-rentrés en contact. Et Jean-Cri m'a même aidé à terminer mon deuxième disque solo.
Ouais.
Et donc voilà, on était arrivé au stade du mastering, un truc où en général on pinaille vraiment, on est sur du détail et tout. Et quand on a eu le dernier master, celui qu'on a validé, il m'a appelé, il me dit ça y est, je l'ai écouté en passant l'aspirateur, c'est super.
Mais vous êtes un homme d'intérieur. Vous êtes un homme d'intérieur, Jean-Cri.
J'aime bien les sons qui se.
Pas que les sons, manifestement.
Les pratiques aussi.
Non, oui. Non, je sais pas. Non, j'aime bien. C'est vrai, hein, j'aime bien les sons domestiques.
Ouais.
Ça évite d'avoir des animaux.
C'est moins salissant.
Je sais même pas si je comprends. Non, ça évite d'avoir par exemple des souris ou ça pour avoir plus de compagnie. Ça évite d'avoir la compagnie d'un chien. Il vaut mieux avoir un aspirateur.
Bah oui,
c'est ça.
Oui,
vous êtes pas obligé de descendre.
Ce qu'on appelle ces bruits blancs est très bon pour le repos, pour le sommeil. C'est ce qu'on met au bébé pour qu'il s'endorme. Le bruit de la mer, le bruit d'un, oui. d'un, voilà, d'un ventilateur. On peut allumer son. Et donc, c'est des bruits qui reposent. C'est prouvé.
Je vais tenter ça. Dès ce soir, m'endormir avec une machine à laver en passant l'aspirateur. Un son de télé pour vous, JP Nataf.
Les enfants de Shadok, ça pompe ou ça n'existe pas. Depuis qu'ils avaient été chassés de la Terre, ça fait plus d'environ 3978,6 générations qu'ils ne font que ça, pomper. Alors vous pensez, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'arrêter. J'ai pu vous dire tout de suite que puisque vous avez l'intention de suivre cette émission, va falloir vous y habituer.
JP Nataf, souvenir d'enfance,
souvenir d'enfance, mais souvenir d'enfance qui persiste parce que à chaque fois que j'y suis revenu, quand j'ai fait découvrir à mes enfants,
au Shadok, ouais.
Voilà. D'abord, du coup, ça ramène un espèce de truc vieux con qui est quand même de se dire, à cette époque-là, la télé, quand même, avant le journal de 20h, il y avait ça. Et je trouve que c'est incroyable d'impertinence, de liberté, de folie. Et après, parce que je crois que c'est le début aussi de la conscience qu'on peut rire d'un truc qu'on comprend pas vraiment et que le rire mélangé avec cette espèce d'incertitude, c'est le meilleur rire. C'est ce qui amène au nonsense après, au Monty Python, à plein de choses.
Charles Barbérian, vu la qualité aussi des dessins des Shadok.
Je crois que effectivement, l'humour absurde, c'est la première porte d'entrée pour la poésie. Parce que quand on est à l'école, on donne des poèmes qu'il faut comprendre, expliquer, alors que c'est le contraire, en fait, de la poésie. Et d'être confronté à l'humour absurde, de rire ou pas savoir ce que c'est. Moi, ça a été mon entrée dans ce monde que j'apprécie énormément, qui est la poésie et l'humour absurde encore plus. Ouais.
Un dernier son, des oiseaux pour vous, Charles Barbérian.
Des oiseaux.
Peur, hein. Et plus précisément, des canaris. Et alors l'anecdote, c'est dans Playlist de Luxe.
C'est les canaris de mon grand-père, ouais. C'est-à-dire que mon grand-père, dans son bungalow en Jordanie, avait plein de cages de canaris. Et effectivement, je raconte la fois où j'ai vu une guitare au milieu de ces cages de canaris et une guitare qu'il avait gagnée à un jeu de cartes. Et il savait pas jouer de la guitare et donc j'ai pris la guitare, voilà. Et les canaris, c'est à la fois le son mais c'est aussi l'odeur. Il y avait une odeur très très forte. Alors est-ce que c'est la bouffe des canaris, est-ce que c'est leurs déchets, est-ce
on dit souvent ça sent le canari d'ailleurs.
Ça sent le canari. Ouais.
Pas chez Jean Gris, hein. Ça parce qu'il y a un aspirateur et une machine à laver, il n'a pas besoin d'avoir des canaris pour lui tenir compagnie.
Je ne répondrai pas.
Alors moi, c'est pas la peine.
Alors un canari dans une machine à laver, faudrait peut-être essayer.
Ah bah alors là, c'est la Ligue de défense des animaux qui va nous appeler. Bon, on passe au live.
Allez, on
passe au live.
On y retourne.
Rendez-vous.
Ils vont changer de guitare, ça va prendre un tout petit peu de temps. Le duo, un des duos cultes hein, de la pop française, Laurent, les Innocents, sans doute un peu moins funky que Lirita Mitsuko, mais définitivement plus mélodique que NTM.
Ah bah, hein, et voilà. Cela dès le milieu des années 80.
Voilà, ouais. dès le milieu des années 80.
Jody, c'était dans le top 50, je me souviens.
Mais ouais, ouais. On en reparlait l'autre jour du top 50. Ils seront en concert, Linière, le 31 mai, Tourcoing, le 13 juin, le Café de la Danse à Paris, le 19 juin, aux Nuits de Fourvière à Lyon, le 28 juillet, la Salle Playel à Paris, le 13 décembre. Je les entends s'agiter derrière moi. Vous êtes prêts, messieurs?
Charles Barbérian est prêt aussi. Il a son stylo dans les mains.
Il a dégainé le stylo.
Voilà, il est en train de dessiner. C'est parti.
Quelque chose me ronge. nouveau rendez-vous sur France Inter.
Il en a même perdu son casque.
Il a perdu le casque, il a fait tomber le pied de micro. Bah, JP, JP Nathaf, en pleine forme.
Il casse le studio.
En live.
Dans un instant, c'est foutu.
Dans le énervé. Bon, bah voilà, la prise de son était assurée par Pierre Faucillon, Julien Dumont.
Mais ça continue. C'est destructeur. C'est destructeur dans le studio.
Les gars, calmez-vous là.
Ça s'appelle comment cette émission?
L'énervé.
Et à la vidéo, c'est Benoît Massir, parce que vous pouvez voir tout ce qu'on fait, tout ce qu'on cassait les innocents sur le site internet de l'émission. Un monde parfait, 1995. En fait, vous avez commencé à vous retrouver autour de ces chansons-là.
Un peu, oui.
C'était ça, c'était une tournée.
C'était surtout les jouer devant les gens qui nous manquaient le plus. Enfin, certainement qu'on s'est manqué un peu, mais il nous manquait de jouer ces chansons devant les gens. Ça nous...
ouais, parce qu'en plus, Jean-Cré était beaucoup plus, on va dire, en laboratoire pendant ces années de... On n'était plus ensemble.
Mais pendant moi, 15 ans, hein, 15, voilà. 16 ans, ouais.
Mais moi, je faisais quand même...
Ah bah oui,
Mais moi, je faisais beaucoup de concerts.
Les sèches-linges.
Deux albums solo.
Ouais, je faisais plein de concerts, mais j'avais pas du tout envie de jouer ces chansons sans lui. Il y avait...
De temps en temps, ouais, j'essayais, mais c'était pas le même truc. Donc c'est vrai que au début, l'envie, ça a été quand même de. On les a fabriqués à deux, quoi. Ça marche mieux quand on est ensemble.
C'est vous qui étiez parti, non, Jean-Christophe?
Oui.
Jean-Christophe.
Ouais. Oui, bah, une fatigue.
Il est allé acheter des filtres pour l'aspirateur.
Il est jamais revenu. Il
était un peu fatigué. Voilà.
Mais se reformer, ça implique certainement des compromis, peut-être, quand vous vous êtes retrouvés.
De toute façon, c'est toujours. Voilà.
Ouais, mais moins qu'avant.
Une vie à deux, c'est toujours des compromis, que ce soit dans la musique ou.
Ou dans le dessin. Voilà. Bah, Charles Berberin, il connaît la chose avec Denis.
Avec ses deux mains.
Ouais.
Avec Jean-Claude et puis avec Philippe Dupuis. Ouais. Avec Philippe Dupuis, j'ai travaillé longtemps, oui. Et moi, j'ai eu la chance d'assister un petit peu au retour. Trouvailles des Innocents à la Java, où Jean-Christophe était venu rejoindre JP pour chanter. Et c'est vrai que cette jonction des deux voix, c'est jouissif, quoi. C'est-à-dire que il y a une espèce de moi, ce que j'aime dans la musique et ce que j'ai pas dans le dessin, c'est d'atteindre quelque chose qui est plus grand que soi-même. C'est-à-dire, c'est un peu ce que je partageais quand je faisais des bandes dessinées avec Philippe. J'aime bien cette idée-là. Et je trouve ça dans la musique. Et les harmonies vocales, c'est comme les instruments de musique, sauf que c'est encore plus beau parce que c'est plus organique. C'est atteindre un son qui est plus grand que soi et la jonction des deux, je trouve ça sublime, quoi. Et je suis très très ému par ça.
C'est magnifique.
Non, c'est vrai.
Il dit ça. Vous travaillez. Moi je le pense, mais quand je le dis, il me regarde. Il aime pas le sentimentalisme, Jean-Pierre.
Non, mais c'est vrai que travailler les deux voix présentes sur les chansons, c'est quelque chose qui a été aussi votre signature et qui le reste. Oui, surtout encore plus dans ce dernier album.
On est plus que deux fois soi-même, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, on atteint quelque chose qui est. Qu'on peut pas, même pas vraiment rêver, parce que de toute façon, c'est quand même comme on dit, c'est un compromis, c'est un bricolage, quoi. Il y a quand même un bricolage. Il y en a un qui arrive avec une mélodie, puis l'autre qui dit, tiens, fais-moi un peu de place dedans.
On a toujours senti la force aussi de, c'est qu'on est plus fort quand on est à deux à chanter la même chanson.
Mais ils sont plus faciles à faire aujourd'hui, les compromis, qu'il y a.
Ouais, oui. Enfin, en tout cas, on sait là où on n'ira pas le chercher.
Et on sait pourquoi on les fait aussi, parce qu'on on s'est récupéré une sorte de tsunami de bienveillance en revenant. De la part des gens qui avaient vécu avec ces chansons, même des médias, enfin, c'est quand même assez inespéré, quoi.
Ouais. Deux 15 ans plus tard.
Non, mais deux quinquas qui reviennent et qui intéressent encore les gens après.
Victoire de la musique pour Mandarine.
Bah, c'est une chance, ça vaut le coup d'attendre.
Ouais. 25 000 albums vendus, ce qui paraît peu, au vu de ce qui s'était passé avant, mais qui aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que quand même, dans les années 90, Foualier, c'était 700 000 albums. Ça vous a surpris quand même, cette différence?
Non, on avait vu.
Oui. Les ventes, ça surprend toujours. Ouais. Qu'on en vende beaucoup ou qu'on en vende peu, c'est toujours quelque chose.
Mais en même temps, le marché avait complètement évolué aussi.
C'est jamais exactement ce qu'on a misé.
Parce que quand vous êtes parti et quand vous êtes revenu, quand même, les choses avaient changé.
Oui, mais on a continué à faire de la musique quand même.
On était
au courant.
Ouais. Mais quand même.
Bah oui, c'est. Bah, je trouve qu'on a de la chance parce que nous, on a connu.
On peut faire une émission là-dessus.
Ça vous a fait douter?
Bah non, on a connu les deux. On a la chance d'avoir connu.
On a connu la fin des 50 glorieuses, moi je dirais. C'est-à-dire un moment où il y avait. On peut dire sans doute trop d'argent dans l'industrie du disque, comme à Hollywood à un moment. C'était le pic, c'est la corne d'abondance. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu énormément, énormément d'argent.
Oui, c'est la fin des années 90.
Et donc, on a eu la chance d'avoir la queue de la comète de ça. Donc, d'en profiter un peu, c'était pas désagréable. Mais après, la norme dans la musique, au cours des siècles, dans les autres pays, c'est pas non plus d'avoir un ascenseur social quand on fait des chansons.
Alors, pour ce nouvel album, vous avez d'une certaine façon bouclé la boucle, puisque vous êtes allé l'enregistrer à Bruxelles. Et j'ai pu dire que c'était d'ailleurs dans le studio du premier album.
Voilà. Moi, j'aime pas boucler la boucle parce que ça longtemps que.
derrière.
Voilà.
Souvent, on boucle la boucle. Ouais, en fait. Mais je veux dire par là que je suis revenu dans le quartier de mon enfance et dans lequel j'ai retrouvé JP. Enfin, voilà.
Ah oui, d'accord.
Boucles à boucler, il y en a un paquet. Mais c'est vrai que là, on est reparti à Bruxelles. Comme ça, tu pourras parler de la BD.
Quelle transition.
On est parti à Bruxelles parce que je crois qu'on cherchait un endroit pour s'évader un petit peu de chez soi. L'avant-dernier album, on avait mis tellement de temps à le faire qu'à chaque fois qu'on passait dans la rue devant nos potes, ils nous disaient « Alors,
vous en êtes où ?»
Ça a duré deux ans, cette histoire. Donc là, on va faire ça ailleurs. Oui. Et puis du coup, j'ai un peu imposé, je peux le dire à JP, un rythme un peu plus rapide. Je l'ai imposé parce que JP se... Ça lui plaît le studio, d'écrire.
Et puis moi, ça me plaît de dire oui à plein d'autres projets. Par exemple, voilà, genre dans quelques jours, j'ai un concert avec Charles.
Avec Charles Berberian.
J'arrête pas d'emmerder tout le monde avec mon planning parce que c'est toujours un truc.
Vous avez un concert ensemble, c'est vrai?
Oui, à Puteaux. Ouais. le 19 mai.
Moi, je vais chanter, il va dessiner, c'est très agréable, c'est un super exercice.
Mais c'est pas le contraire, rassurez-moi.
Oh, bah, il va sûrement chanter, moi je vais le forcer à chanter,
et
il va pas me forcer à dessiner.
JP dessine, oui, mais il le cache bien. Ouais.
Pour cet album, j'ai pu lire aussi plus de légèreté, notamment pour le passage sur scène. Plus de légèreté, ça veut dire quoi? Que vous sentiez lourd? Enfin, c'est quoi cette histoire?
Non, non, je pense que on revient d'une très longue tournée, ouais. Comme disait JP, qui a été très agréable parce que ça nous a permis déjà de nous rencontrer sous la forme d'un duo. On l'avait jamais fait avant, donc c'était c'était assez agréable à faire. Au début, on savait pas trop où on allait, puis on a fini par être une vraie paire, je dirais. Et après, les gens on parlait de la bienveillance. C'est fou ce que, à partir d'un certain âge, on la reçoit plus qu'avant. Ça nous a vraiment réchauffé. Donc, on est arrivé en studio en se disant, bon, on finit cet album et puis on retourne sur la route. Sans le bâcler, j'entends, hein, mais un peu plus rapidement que d'habitude.
Non, puis c'est à partir du moment où il y en a un qui, même après 10 ans de succès, puis, parce que globalement, c'était un truc qui marchait bien, les Inno.
Ah bah oui,
quand Jean-Cri est parti, mais il est parti avec une espèce de lassitude qu'il a réussi à m'expliquer à demi-mot, parce que j'avais pas envie de l'entendre, mais qui était, ça me saoule, de toute façon, les tournées, et puis tu me saoules, toi aussi. Et en fait, de revenir et de plus avoir le groupe, toute l'armada d'une grosse tournée, du succès, de repartir avec nos deux guitares et tout. Ce qui est agréable pour moi, c'est que je me suis dit, bon, en fait, c'est peut-être pas que moi qui le saoulais, il y avait peut-être autre chose là-dedans. Enfin bref, on s'est réapprivoisé l'un l'autre, on s'est vu dans d'autres conditions surtout. C'est avec moins de responsabilité aussi, parce que quand vous revenez de nulle part, personne vous dit, il faut faire des chiffres, les garçons, voilà, on attend de vous, tel ou tel résultat.
Les tournées, ça vous saoulait à l'époque?
Oui, mais moi,
J'en crée.
Mais tout me saoule.
Non, c'est pas tout. Non, tout me saoule pas, mais souvent, je prends les choses en grognant un petit peu. Oh, comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça doit être pour faire le malin. Je ne sais pas.
Pour pas être déçu.
Ou pour pas être déçu. Mais une fois que j'y suis, je suis ravi. Et là, j'ai envie. Enfin, on est en train de. Vous avez entendu. Il nous manque un musicien aujourd'hui. On sera un peu plus nombreux. On sera 5 sur scène. Et on est en train de monter ça. C'est très bien. Ouais.
Vous avez chanté tout à l'heure « De quoi suis-je mort ?» Et moi, ouais. Je trouve que c'est vraiment une chanson à part sur ce disque. Elle a une tonalité beaucoup plus mineure, beaucoup plus douce, amère. Oui. Et elle est signée Gilles Kaplan et Jean-Christophe Urbain, c'est-à-dire
oui.
Vous.
Oui. Voilà.
Et je me disais, est-ce que c'est une chanson pivot sur l'album? Moi, j'ai l'impression que l'album, à ce moment-là, commence à basculer dans une autre humeur aussi.
Alors, c'est possible. C'est vrai que c'est une chanson qui a beaucoup d'importance, mais je pense que sa place sur l'album, là, elle est arrivée après de nombreux débats, comme tout ce qu'on fait généralement, JP et moi, c'est dans quelle chanson on met les chansons.
Au début, je voulais qu'on la mette en début d'album, et puis tout le monde m'a dit est-ce que c'est un bon signal.
C'est juste dommage parce que quand on donne le titre de cette chanson, par exemple à notre maison de disques, ils disent toujours, je peux pas arriver dans les radios puis leur dire, voilà, j'ai un super nouveau single, il s'appelle De quoi si je mors? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vous pose la question parce qu'on se pose la question.
Moi, vous me demandez, là?
Oui.
Ah, bah, moi, oui. Moi,
ah,
moi,
bah, voilà, donc voilà, voilà, d'accord.
Oui, non, mais on ne sait pas, très hein,
je mène une enquête.
Je serais programmateur, je dirais non.
Non, voilà.
Je sais pas je la sens pas comme un pivot parce que je trouve qu'elle est comme les autres, c'est-à-dire que là, au niveau des paroles, parce qu'on parle beaucoup de la puissance mélodique des Innocents, mais les paroles, c'est quelque chose, c'est-à-dire que moi j'engage les gens qui aiment ces chansons à lire juste les textes une fois comme ça. Je fais partie de la vieille école. Je lis les livrets en l'écoutant. Les textes sont fantastiques et cette chanson, elle est très belle aussi pour ça. Quoi.
Elle emmène dans une autre humeur. Moi, elle me fait penser à une chanson des Innocents qui s'appelait Danny Wilde. C'est un écho, une réminiscence de ça, la nostalgie.
Ouais.
C'est un thème qui revient souvent. La transmission, la nostalgie, le fait de ne pas être à sa place dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, mais justement, j'ai l'impression qu'on l'était autant quand on était plus jeune.
Ouais.
C'est, je crois
que là, tout à coup, c'est raccord avec notre âge. On écrivait des chansons de vieux.
L'album de la très grande maturité, c'est ça. Pour reprendre un terme journalistique. Quelques dates de concert.
Lignières, 31 mai, Tourcoing, 13 juin, le Café de la Danse à Paris, 19 juin, je suis sûr que c'est déjà complet. Donc rendez-vous à Pléiel le 13 décembre. Et il y aura aussi les Nuits de Fourvière à Lyon le 28 juillet.
Vous restez avec nous, bien sûr. Il n'y a pas que les Innocents dans la vie. La musique, c'est aussi Charles Berberian, Night Ride.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard, sur France Inter.
I need a light to walk straight in the middle of the night. I need a light to walk straight back home. I need a fire to keep me warm when I'm lying back home. I need a fire to burn the house down and be gone. Give me time. Give me time. Give me time. Give me
Tried, un extrait de votre dernier album Tout pour le mieux, Charles Berberian. Une chanson pas facile à chanter, vous disiez tout à l'heure, Jean-Cri.
À jouer, oui, à jouer, parce ouais. qu'il se balade des temps un peu bizarres dans ces mesures-là.
C'est-à-dire
je ne sais pas. À chaque fois, je me suis planté. Bon, après, maintenant, je crois que je pourrais la jouer, mais
c'est la jouer.
J'ai Penata, vous savez la jouer. Vous.
Ah ben moi, mais j'ai eu l'occasion d'apprendre.
Oui, il y a parfois un temps de trop, un temps de moins. Ça dépend des fois.
Quelle guitare là-dessus?
J'ai utilisé une petite Martin, voilà, ce qui est sobre et équilibré, c'est-à-dire que les aigus sont pas trop aigus, les basses pas trop basses.
Il y a pas de sub.
Il y a pas de sub. Ce fameux sub qu'on a entendu tout à l'heure avant le générique de l'émission.
C'est Marcello Giuliani qui a réalisé, arrangé l'album. Et on entend dans les chœurs aussi Vincent Mougel.
Qu'on entendait tout à l'heure dans les chœurs des Innocents. Vous avez une collection de guitares?
Oui.
Ah oui?
Bah oui. Non, mais j'aime beaucoup ça et c'est vrai que j'adore la petite guitare qu'utilise Jean Cri, la petite Gibson. J'adore ce genre de petits instruments, quoi. Enfin, les petites guitares, j'aime beaucoup parce qu'on peut jouer allongé ou assis tranquillement, on peut la laisser reposer sur son ventre. Il y a quelque chose de très organique dans une guitare, et pour moi ça convient bien avec le format, enfin le principe d'une chanson. Pour moi, une chanson c'est comme une plante. Il faut que ça germe, il faut qu'on y fasse attention pour qu'elle pousse comme il faut. Et puis une fois qu'elle est là, il faut l'entretenir. Et le meilleur moyen, c'est de la jouer et de la rejouer. Et ça, une petite guitare, c'est bien.
Charles Berberian, un héros de la bande dessinée depuis les années 80, un musicien qui dessine le milieu de la musique, un cinéphile qui collectionne les plus mauvais films du monde. Je me souviens qu'on s'était vu il y a longtemps sur un tel sujet. Vous publiez Playlist de Luxe, c'est la version augmentée d'un album culte de 2004 qui s'appelait Playlist. Vous y dessiniez déjà les pochettes de Playlist enregistrées sur des mini-disques.
C'est dingue les mini-disques.
Les disques. Vous êtes dur.
Je pense que je suis la seule personne que je connais qui a eu un lecteur de mini-disques dans sa voiture.
Ah oui, dans sa voiture.
Dans sa voiture, le truc de dingue.
Les mini-disques, c'est fini là maintenant.
C'est fini.
Depuis longtemps, ça n'a jamais marché.
C'était avant qu'on puisse graver des CD.
Mais c'était pas mal, parce qu'on pouvait enregistrer. On pouvait enregistrer, c'était pas mal.
Exactement, ça ressemblait à une disquette. Les premières disquettes d'ordinateur. Et puis, l'appareil avait un léger compresseur. Et j'avais acheté un petit micro Sony. Et c'était dingue comme son.
Moi aussi, j'ai des mémos comme ça que j'ai fait sur les disques qui sont incroyables.
On sent que c'est important pour vous dans Playlist de Luxe, cette façon d'écouter de la musique. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, on remonte pas jusqu'au gramophone, mais le manche-disque, on pouvait emmener partout. La platine vinyle, les albums conçus avec une face A, une face B. D'ailleurs, aujourd'hui, même, c'est une question qu'on peut vous poser, Lesino. Vous croyez qu'aujourd'hui, encore, le format album, il est adapté à la consommation de la musique avec les playlists où les gens zappent d'un titre à un autre?
En même temps, les Beatles sortaient des top singles entre leurs albums.
Non, mais ça offre un voyage. Enfin, nous, on est restés à ce voyage-là, la face A, la face B. Ouais. Même quand on faisait, parce que c'est rigolo, maintenant on parle de vinyle, mais enfin, on a fait toute une carrière avec
les CD.
Avec les CD, ouais.
Mais je pense qu'on pensait quand même face A, face B. C'est peut-être
Souvent, la césure dans ma tête se fait entre la chanson
encore.
5 et la 6.
Proposition de voyage.
L'intérêt de la cassette et du CD, en fait, c'est l'invention du Walkman. Et ça, écouter de la musique en marchant, j'ai trouvé ça, mais fabuleux, quoi. Ce truc est juste dingue. Et c'est possible aujourd'hui avec son téléphone. Mais ce que je dis aussi dans le livre, ce qui reste le plus important, c'est la chanson, en fait. C'est ça le plus important. Ce truc-là est plus fort que tout. Je me fous un peu de la gueule de ces industriels qui sont là à imaginer des nouveaux moyens pour nous vendre de la musique.
Avec les algorithmes, ouais.
Mais avant d'acheter de la musique, on l'apprécie. Et puis, il y a ceux qui la composent et ceux qui l'écoutent. Et ceux qui se mettent en travers du chemin, ils essayent de nous compliquer la vie. Mais on arrive à faire sans.
Et la musique, vous la dessinez aussi. Donc, par exemple, il y a la compilation pour... Oui,
non, ce qui est génial, ce qui me fascine, c'est que quand je croise Charles, en fait, souvent, c'est lui qui me parle d'un disque qu'il a écouté ou qui a découvert des nouveaux artistes. Parce qu'il a quand même un privilège incroyable, c'est de pouvoir travailler en écoutant de la musique.
Ouais.
Alors que nous, on ne peut pas dessiner en jouant de la guitare. Mais non, mais du coup, c'est génial.
On peut pas faire de musique en écoutant d'une autre musique.
C'est ça.
Je vous l'interdis.
Ouais, moi, je l'envie terriblement parce que souvent, j'ai 15 métros de retard. Je me dis, j'ai pas eu le temps d'écouter ça.
T'écoutes pas mal de trucs, JP, quand même.
Mais quand même. Tu es un puits.
Et tu connais un nombre incalculable de chansons. C'est un jukebox vivant. Enfin, c'est dingue. Ouais. Il connaît des trucs. Je l'ai vu il y a une semaine, quoi. Il faisait tout un répertoire des chansons de la fin des années 70.
De l'année 79.
Il a chanté une version de Broken English qui est remarquable, quoi. Ouais.
Dans cet album dessiné, donc, on retrouve Dylan, Barbara, Bastien Lallemand, Rodolphe Berger, Yoko Ono, les Beatles. Il y a des cassettes, enfin pas des cassettes, des mini-disques qui sont redessinés avec la couverture. Par exemple, pour danser, c'est la compilation de Sugar Baby Love. Donc on voit très bien sur quoi vous pouviez danser en famille. Il y a la playlist aussi Neil Young. En couverture, qu'est-ce que vous avez mis? Parce que pour la première version, en 2004, c'était votre bobotide...
Oui, ouais,
c'était Bob Dylan. Bob Dylan en couverture, et cette fois-ci pour la version
là,
2019.
C'est Keith Richards qui est de dos et Mick Taylor de face.
Ouais. Mais donc, ça a une raison, c'est qu'au départ, en 2004, ça ne devait pas s'appeler Playlist, ça devait s'appeler Comment je n'ai pas rencontré Keith Richards. C'est ça l'histoire. En fait.
Ça fait l'objet d'un strip.
C'est tout un périple. Comment je n'ai pas rencontré Keith Richards. Ouais, j'ai eu ce privilège-là.
De ne pas le rencontrer.
De ne pas le rencontrer. Mais c'est l'avantage aussi de la bande dessinée, c'est qu'on peut raconter ce qu'on veut, on peut imaginer ce qu'on veut. Quand je dis de la bande dessinée, c'est aussi la littérature ou le cinéma, mais l'intérêt de la bande dessinée, c'est que je peux me dessiner dans le même espace que Keith Richards. J'ai même dessiné Keith Richards chez moi, à la maison, en train de se moquer de moi, en disant que j'arrivais pas à le dessiner correctement.
Alors pour cette version augmentée, qu'est-ce qu'il fallait rajouter? La première chose qui vous est venue à l'esprit?
Non, mais ça s'est fait. En fait, quand le premier playlist est sorti, j'ai donc été invité à des festivals de musique. J'ai rencontré des artistes. J'ai eu la chance d'aller les écouter pendant qu'ils enregistraient, comme ça m'est arrivé avec Les Innocents, mais aussi avec Bastien Lallemand ou Jacques Higelin. Et j'ai fait des concerts dessinés avec Pascal Comelade, Rodolphe Burger. Donc j'ai continué à dessiner la musique pendant cette quinzaine d'années qui séparent la première édition de cette édition-là. Donc, moi, c'est mon éditrice Sophie Giraud qui avait déjà provoqué la publication du premier volume, qui m'a dit, mais peut-être qu'il serait temps de faire une mise à jour. Ouais. Et du coup, avec Philippe Bretel qui s'est occupé de la direction artistique, enfin le graphisme du livre, on a réuni tous ces dessins et on a mis tout ça en forme. Moi, j'ai écrit des textes en plus, j'ai fait quelques bandes dessinées en plus ou quelques dessins en plus pour compléter, mais j'avais un regard de la part de Sophie et de Philippe, qui sont tous les deux aussi des grands fans de musique et qui me disaient, on a envie de lire ça, on a envie de savoir ça, dis-nous ça. Et moi, ça me poussait à aller dans une direction et à construire un livre de cette manière-là. Quoi.
Alors, je trouve qu'il y a un truc très gourmand dans la façon dont Charles dessine la musique, enfin les musiciens.
Ouais, c'est-à-dire
C'est-à-dire que si j'avais lu Charles avant d'acheter tous ses disques quand j'étais petit, je trouve que quelquefois c'est même plus accueillant qu'une photo. Parce qu'il y a des mecs qui sont moins sympas finalement en photo que ce qu'on imagine ou leur photo. Et alors que Charles, on a tous envie de les aimer, quoi. Il a un truc de gentillesse et de douceur dans tous les personnages qu'il dessine. Même Johnny Cash, là-bas.
Johnny Cash, que je vois,
ouais,
magnifique.
C'est pas un vrai méchant, c'est un méchant de BD, non. Là. Enfin, il a un regard un peu dur.
John Baez, sublime, avec une autre qualité de dessin. D'ailleurs, pour les filles, il y a une autre qualité de dessin.
Ah, bon ouais. Ah ouais. Elles sont toutes sublimes.
Alors, non,
c'est vrai, moi j'en ai dans mon salon une fille qui l'a dessiné.
Non, c'est vrai, il y a Barbara, très belle aussi. Mais c'est vrai qu'en revanche, quand vous. Brian Wilson.
Oui, mais il est gentil quand même.
Oui, mais il est
gentil. Il y a une décennie qui n'a pas trop la cote, je trouve, dans votre album. Là, c'est les années 80. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose sur les années 80. Qu'est-ce qui cloche avec cette décennie?
Eh bien, j'ai une réponse. Ah-ha. Parce qu'il y a une grande théorie. C'est-à-dire que l'album est vraiment construit autour des années 70. Et vous citez quelqu'un, vous citez Joni Mitchell. Vous dites, dans les années 60, notre génération voulait changer le monde pour l'améliorer. Dans les années 70, nous avons laissé tomber cette idée pour essayer de nous améliorer nous-mêmes. Et dans les années 80, il a bien fallu se résigner à l'idée que nous avions échoué sur toute la ligne. C'est Joni Mitchell. Et je me suis dit, c'est vous aussi, non, Charles Berberian?
On n'est pas vraiment de la même génération, mais je me reconnais tout à fait dans ce qu'elle dit. Après, pour ce qui est de la musique des années 80, il y a probablement la raison première, ce serait que j'avais moins d'argent pour acheter des disques, parce que c'est les années où je me suis installé en dehors de la maison des parents, quoi. Donc j'achetais des disques d'occasion, en gros, quoi.
Des disques des années 70.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis c'est vrai que je suis un peu injuste parce que finalement, avec le recul, je trouve que notamment les Français ont fait des choses vraiment remarquables dans les années 80.
Les Innocents, Étienne Dao, Bachung,
c'était énorme. Et les Rita Mitsouko, notamment les deux premiers albums des Rita. Mais peut-être que j'étais moins réceptif à ce qu'essayaient de nous faire écouter, par exemple, les Inrock à cette époque-là. Et j'ai découvert assez tard, en fait, la scène anglaise. Les Smiths, je crois que j'ai écouté dans les années 90. J'ai toujours une décennie de retard, en fait.
Mais peut-être que les gens des années 80 sont plus durs à dessiner.
Mais non, avec leur,
bah justement, c'est super.
Mais non, mais j'avais fait une BD avec les épaulettes et tout ça. C'est génial à dessiner, choucroute.
Ah, bon,
ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est super à dessiner. Mais non, c'est vrai que il y a moins de choses dans ma discothèque des années 80. Je parle des Anglais, hein. Les Américains. Je suis passé complètement à côté de la scène de LA, c'est-à-dire le Gun Club et tout ça. Ça m'est complètement étranger, quoi.
Et la scène rap aujourd'hui?
Alors, c'est pas vraiment du rap. Moi, ce que j'adore en ce moment, c'est Anderson .Paak. Alors, c'est pas vraiment du rap. C'est entre soul, rap. C'est un peu comme les Roots avec Questlove, c'est-à-dire que c'est. Mais finalement, pour moi, c'est de la musique, quoi. Et Anderson .Paak, il me rend dingue, quoi. J'ai envie de me mettre à la batterie.
Une dernière question pour vous, Charles Berberian. Vous êtes né en Irak, à Bagdad, mère chypriote, père franco-arménien, une adolescence au Liban, on en a parlé tout à l'heure avec la guerre civile. Vous n'avez pas envie de dessiner ce passé au Moyen-Orient de façon frontale, de vous y atteler? Une bonne fois pour toutes.
Je recule le moment et là maintenant je suis adossé, je suis contre le mur et ce moment se rapproche de moi pour m'enlacer et me proposer une collaboration. Donc je vais m'y mettre, ouais.
De travailler donc le Moyen-Orient dans les années.
Je vais travailler le Moyen-Orient encore. Je vais danser avec le Moyen-Orient. On va voir ce qui va en découler.
Ce sera donc le prochain projet. On l'a bien compris.
Non, j'en ai un autre.
Avant, c'est quoi?
Ouais. Je peux pas en parler. Non, on m'a mis entre les mains l'autobiographie de Charlotte Perriand.
Designeuse,
oui. Oui, alors je connaissais pas. Et moi, j'ai découvert l'équivalent de Paul McCartney chez les architectes et les designers, quoi. J'avais vraiment l'air d'un idiot à Charlotte Perriand. Je sais pas qui c'est.
La Station des Arcs, c'est elle, ouais, qui avait dessiné tout le mobilier.
Et c'est une personne, mais remarquable. Je la trouve formidable, quoi. Je suis fan de Charlotte Perriand.
Un nouveau biopic, alors, ouais, pour Charles Berberian. Ouais. Playlist de luxe, c'est paru chez Helium. Merci Charles Berberian, merci Les Innocents, le NRV, vous l'avez compris, première partie c'est fini. On va se retrouver dans 15 minutes avec quelque chose qui vous concerne aussi, Charles Berberian. Woodstock ou Barricade, 1969, est-ce que c'était vraiment mieux que 68? C'est le thème du débat. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.